d'avoir couvert le Seigneur de notre louange et de notre adoration. Nous voulons maintenant écouter sa parole. Merci à lui, une fois de plus, pour cette grâce, ce privilège qu'il nous accorde d'être une fois de plus en sa présence, de nous asseoir à ses pieds, de lui tendre une oreille attentive pour recevoir sa parole. Oh. Tu es ce soleil levant qui nous a visités d'en haut, ce soleil dont les rayons sont porteurs de vie, d'espoir, de guérison tous azimuts, des rayons porteurs de puissance, puissance de libération et de délivrance, des rayons porteurs de cette vie après laquelle l'humanité tout entière languit et soupire. Merci, ô Seigneur de gloire, d'avoir pensé à nous et d'être venu ici-bas, d'avoir paru comme ce soleil, cet astre promis depuis l'aube des temps, cet astre, ce soleil de justice qui devait venir éclairer le monde et les libérer du pouvoir des ténèbres, les libérer de l'obscurité morale, les libérer de l'emprise démoniaque et satanique. Et tu es venu ici-bas, Seigneur, et depuis tu brilles partout, ta parole est proclamée dans la puissance de ton esprit, partout ton évangile est annoncé, partout là la lumière s'allume, partout là les ténèbres et l'obscurité, quelle que soit sa nature, recule. Et ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu es là, de ce que tu brilles parmi nous, de ce que tu resplendis de ta gloire sur nous, de ce que tu brûles de ton feu et de ta flamme. Ce matin, ô Dieu, que le feu de ta parole consume toute ténèbre en nous, que la lumière, les rayons puissants qui émanent de ta personne puissent détruire toute ténèbre d'incrédulité, toute ténèbre, ô Dieu, d'athéisme, toute ténèbre d'aveuglement religieux, de fanatisme et d'obscurantisme de tout genre. Parle-nous, brille au travers de ta parole, réchauffe nos cœurs par ta parole, ouvre nos yeux, et que nous voyons cette lumière briller puissamment et amener les perdus au salut, et apporter la guérison aux malades, et apporter la délivrance et la libération aux captifs du diable. Nous voulons voir ta lumière transformer la malédiction en bénédiction, car tu es le seul à le faire. Seigneur, tu es le seul, et nous le proclamons avec force, avec conviction, que tu es le seul qui éclaire l'humanité, qui débarrasse l'humanité des ténèbres qui pèsent de plus en plus sur elle, qui s'apaisantissent de plus en plus alors que nous nous dirigeons tout droit, Seigneur, vers ton retour en gloire pour venir nous chercher. Mais en attendant, la menace est là. En attendant, le danger se fait de plus en plus sentir. En attendant, l'obscurité et toutes sortes, Seigneur, de nuages sombres, ténébreux s'accumulent sur notre monde et précipitent des âmes dans l'éternité sans t'avoir connu. Seigneur, merci. Parle-nous. Fais-nous du bien. En ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien. Merci, Chami. Merci à notre groupe de louanges pour ce moment merveilleux que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. Nous allons donc poursuivre avec notre thème, Jésus, le soleil levant qui nous a qui nous a visités. Gloire au Seigneur. Quelle image pertinente, mes amis, quelle illustration glorieuse pour nous montrer comment Christ, en venant dans ce monde, en pénétrant dans l'espace et dans le temps, eh bien, a illuminé tous ceux qui sont dans les ténèbres, tous ceux qui sont esclaves des forces démoniaques et sataniques. Oui, Jésus, le soleil levant, qui nous a visités d'en haut. Nous allons lire, cette fois-ci nous allons quitter l'évangile de Luc, mais nous allons demeurer toujours dans le corpus de Luc, c'est-à-dire dans un autre livre écrit par le même auteur, à savoir le livre des Actes. Et aujourd'hui, nous allons commencer à examiner quelques personnages de la Bible et voir comment ces personnes ont eu à rencontrer le Seigneur, le soleil levant, et comment ces personnes ont été irradiées par les rayons de puissance qui émanent de la personne du Christ. Alléluia. Comment ces personnes ont expérimenté un changement radical dans leur vie, comment ils ont été délivrés des ténèbres, de la malédiction, comment leurs yeux enfin se sont ouverts. Et nous allons aujourd'hui parler du premier personnage. Nous sommes donc dans Luc. Nous commençons notre lecture au chapitre 7 de Luc, car c'est là que pour la toute première fois apparaît un jeune homme très zélé pour les traditions de ses pères. C'est là qu'apparaît un jeune homme respirant la haine, assoiffé de sang, cherchant par tous les moyens à éradiquer la nouvelle religion, entre guillemets, cherchant à persécuter par tous les moyens tous ceux qui se réclamaient du Christ. Nous sommes donc au chapitre 7, à partir du verset 58, très rapidement, du livre des Actes. Ou on peut commencer au verset 57. Ils crièrent alors d'une voix forte en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le chassèrent hors de la ville et le lapidèrent. Il s'agit donc du premier martyr chrétien, à savoir Étienne. Les témoins, ceux qui l'avaient lapidé, avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché ». Et après avoir dit cela, il s'endormit. Chapitre 8, Saul, à partir du verset 1er, Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là, il y a un problème à la technique, j'ai l'impression, pour les textes. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saul ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et puis chapitre 9 du même livre, à partir du premier verset. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui suivent cette voie, c'est comme ça qu'on appelait le christianisme, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul », ou littéralement, je reviendrai là-dessus, Saoul, Saoul en araméen, alors que Luc l'appelle ici Saul. Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tout tremblant et stupéfait, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Et nous continuons. Il fut 3 jours, verset 9. Il fut 3 jours sans voir, lui Paul, au sol de Tarse, ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue, appelée la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tarse. » Et nous allons, vous pouvez continuer à lire, mais nous allons au verset 17. Verset 17. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül et dit, Saül, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, verset 20, et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Comme je l'ai souligné, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire de ce dimanche 17 janvier, nous allons amorcer un voyage, un pèlerinage à travers le Nouveau Testament et aller à la rencontre de certaines personnes, à la rencontre des personnages dans leurs besoins, quels qu'ils soient, physiques, spirituels ou autres, des personnes qui ont eu le privilège et la grâce de rencontrer le Seigneur, lui le soleil levant, et d'être éclairé par les rayons de gloire, par les rayons qui émanaient de sa personne, des personnes qui ont eu à être irradiées littéralement par cette puissante lumière, cette lumière qui était plus puissante que tous les lasers du monde réunis, voir comment, après avoir rencontré le Seigneur, après avoir été en contact avec cette lumière émanant du soleil levant, comment ces hommes et ces femmes, dont il sera évidemment question, comment ils n'ont plus été les mêmes. Et gloire au Seigneur. Car impossible de s'exposer à la lumière du Christ. Impossible d'entrer, mes amis, dans une relation vivante avec lui, le soleil levant, et de rester le même. Ces rayons sont porteurs de vie, d'une vie extraordinaire, d'une vie puissante, alléluia. Après une rencontre effective, une rencontre personnelle avec le Seigneur de gloire, c'est Dieu qui se révèle comme étant le soleil levant, l'astre levant, qui devait venir de Jacob, promis pendant plusieurs siècles. Après avoir rencontré ce soleil glorieux, ces gens, mes amis, peu importe ce qu'ils furent autrefois, ces gens, hommes et femmes, ont fini par expérimenter une métamorphose, un changement, une transformation radicale. Ces gens se mirent tout d'un coup à briller comme celui qu'ils venaient de rencontrer. Gloire au Seigneur. Un changement s'est opéré. Une transformation s'est opérée dans leur vie parce qu'ils ont été confrontés à la lumière de ce soleil levant qui n'est autre que Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, le Messie promis, et gloire à Dieu. Ils n'ont plus été le même, pourquoi? Parce que dans les rayons qui émanent de la personne du Christ, Mes amis, il y a le salut, il y a la guérison, il y a la restauration, il y a le changement, la transformation, il y a la délivrance par rapport aux démons, la libération par rapport à des puissances maléfiques, par rapport aux forces obscures, par rapport à l'oppression, par rapport à toutes ces choses maléfiques et diaboliques qui empoisonnent et intoxiquent la vie de l'homme ici-bas. Presque 4 siècles auparavant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, avant que Jésus, le soleil levant, nous visite, entre, pénètre dans l'espace et dans le temps, presque 4 siècles, l'Éternel lui-même a dit, par le biais, par la bouche de son serviteur, le prophète Malachie, nous avons lu ce passage la fois dernière, Malachie 3:20, « Mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. » Alléluia. « Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de justice avec la guérison dans ses rayons. » Guérison physique, guérison spirituelle, mes amis. Bref, guérison tous azimuts. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Saul de Tarse. J'ai voulu commencer la lecture au chapitre 7, car c'est là où nous voyons cet homme qui marquera l'histoire des nations. Car en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas eu d'autres disciples du Christ qui a exercé autant d'influence, qui a bouleversé le destin des nations que cet homme, autrefois Saul de Tarse, et qui, après sa rencontre avec le Seigneur, est devenu l'apôtre Paul, le bien-aimé apôtre de la grâce. Gloire à Dieu. Saul de Tarse va aussi être confronté à cette lumière. Saul de Tarse va aussi être irradié, littéralement, par ce faisceau lumineux, et par cette gloire plus rayonnante, plus brillante que le soleil, mes amis, dans toute sa force. Et après cette rencontre avec le Seigneur de gloire, le soleil levant, qui a visité l'humanité, après cette expérience sur le chemin de Damas, cet homme ne sera plus le même. De Saul de Tarse, il deviendra l'apôtre Paul, le bien-aimé apôtre que le Seigneur va utiliser comme un vase d'honneur, comme un vase qui va porter, mes amis, le message de l'Évangile au-delà des frontières d'Israël, à travers tous les bassins méditerranéens. Ce voyageur, ce pèlerin de la grâce va répandre l'Évangile, et souvent, même très souvent, dans des conditions et des circonstances pénibles, très difficiles. Nous allons donc nous attarder, un temps soit peu, sur la conversion de cet homme, autrefois juif, très engagé dans sa religion. Au verset 4, nous l'avons lu, « Lorsque la lumière du Christ tombe sur lui, lorsque le soleil levant tout d'un coup s'élève, mes amis, et se met à briller en direction de Saul de Tarse, la Bible nous dit qu'il est projeté par terre. Impossible de résister à la force qui s'est dégagée de cette lumière. L'homme suffisant, le pharisien imbu de lui-même, le pharisien orgueilleux, le pharisien intégriste, le pharisien sûr de lui, le voilà par terre, cloué au sol. Le voilà figé par cette gloire resplendissante émanant du soleil levant. Et là, alors qu'il est rendu aveugle, il est complètement rendu aveugle, mes amis. Impossible de supporter cette lumière. Et plus tard, lui-même dira que cette lumière était plus brillante que celle du soleil. Il y dira, nous le verrons plus tard, au roi Agrippa devant qui il avait été amené à témoigner. Et là, au verset 4, alors qu'il ne peut plus voir, complètement absorbé par cette lumière du soleil levant, il entend une voix qui l'appelle par son nom. Si l'apôtre, plutôt Luc, au chapitre 9, nous parle de Saul, au chapitre 7, nous parle de ce jeune homme, Saul de Tarse, eh bien le Seigneur, lui, va l'appeler. Il va l'appeler, il va utiliser la forme araméenne. C'était la langue parlée à l'époque du Christ. Et cette forme est semblable à l'hébreu, c'est pourquoi quand il parle, quand il témoigne devant Agrippa, il lui dit, j'ai entendu cette voix m'appeler, cette voix en hébreu. Il entend une voix qui l'appelle, Saoul, 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 qui veut dire en hébreu et en araméen, celui qui est demandé. C'est l'étymologie. Celui qui est réclamé, c'est le même sens que le roi Saül dans l'Ancien Testament. Voyez. Et plus tard, de Saül, qui veut dire demander, réclamer, certainement que le diable l'avait réclamé, hein, il deviendra Paul. Paul, son nom romain, qui signifie petit. Nous voyons donc, et nous l'avons lu, que le nom de Saül est mentionné pour la toute première fois dans le Nouveau Testament, lors de la lapidation, lors de cette scène ignoble, horrible, mes amis, de la lapidation, du meurtre d'un disciple de Jésus-Christ. Nous sommes dans le tout début du christianisme, voyez-vous. Et tout de suite, les disciples du Christ sont confrontés à une persécution terrible. Ils sont traqués comme du gibier. Ils sont considérés, mes amis, comme des hérétiques. Ils sont perçus par les juifs fanatiques, par les chefs religieux, les pharisiens, les scribes et tout cela, comme une menace au judaïsme. C'est donc durant le meurtre, il faut appeler le chat par son nom, n'est-ce pas? Ce fut un meurtre. Lors du meurtre d'Étienne, premier disciple du Christ à mourir en martyr. C'est donc à cette occasion-là que la parole de Dieu mentionne la présence d'un jeune homme répondant au nom de Saül. Il nous est donc présenté comme un jeune homme ayant pris part à la mort au martyr d'Étienne. Et puis nous l'avons lu, c'est donc à ses pieds que les bourreaux d'Étienne avaient déposé leurs vêtements. Voyez-vous, certainement en jetant les pierres à Étienne, des pierres qui venaient de partout. Le disciple du Christ avait commencé à saigner. Peut-être que ses vêtements étaient tachés de sang. Mes amis, maculés de sang. Et là, ils viennent, alors que le jeune homme est là, debout. Alors que le serviteur du Christ, le disciple du Christ, Étienne, est en train d'agoniser. Il reçoit des pierres de partout. Au lieu de les maudire, au lieu de demander à ce que la colère de Dieu s'abatte sur eux, non, nous l'avons lu, Étienne prie. Étienne demande à ce que le Seigneur leur pardonne. Quand il adresse cette prière au Seigneur, le jeune homme est là, imbu de lui-même. Suffisant, orgueilleux, heureux de prendre part à cette scène macabre. Voyez-vous, par sa présence, là au meurtre d'Étienne, Saül, et d'ailleurs nous l'avons lu, Saül a approuvé ce meurtre. Quel crime abominable, quel crime atroce. Voyez-vous, et au chapitre 8, en continuant la lecture, nous avons vu que cet homme, Saül, continue à ravager l'Église. Il était déterminé. Il continue à la persécuter. Il pénétrait dans les maisons, arrachait hommes et femmes, mes amis, et les faisait jeter en prison. C'était une sorte de terroriste. Aujourd'hui, on le comparerait à un taliban. Voyez-vous. C'est le chapitre 7 que nous avons lu du reste. Se termine de façon brutale. Le chapitre 8 débute aussi de manière brutale, comme d'ailleurs le chapitre 9, n'est-ce pas? Question de la brutalité. Question de persécution. Le ravage sévit partout. Et au chapitre 9, verset 1er, Saul est fou de rage. Plus on persécute les chrétiens, plus la bonne nouvelle se répand. Oh, alléluia! Car tous ceux qui étaient persécutés à Jérusalem, eh bien, ont commencé à fuir cette ville pour aller se réfugier dans les villes avoisinantes. Et partout où ils allaient, ils prêchaient, ils annonçaient la bonne nouvelle. Ceux qui sont partis vers la Syrie et se réfugiaient à Damas ont continué à évangéliser. Et tout cela va rendre fou Saul de Tarse, fou de rage. Il respire la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est donc pour aller terminer une fois pour toutes avec cette secte entre guillemets. C'est donc pour arrêter le mouvement de Jésus-Christ, pour mettre fin, mes amis, à cette dynamique de Jésus-Christ qu'il va demander l'autorisation auprès du Sanhédrin. Voyez-vous, pour aller traquer, faire arrêter tous ceux qui se permettaient de quitter le judaïsme pour se tourner vers le Seigneur de gloire. Voyez-vous, c'est dans ce but-là de persécuter les chrétiens, de mettre fin à cette aventure, entre guillemets, des adeptes de la foi. L'homme est assoiffé de sang. L'homme est animé, mes amis, d'une haine aveugle contre tous ceux qui croient en Jésus. Voyez-vous, l'ennemi n'a pas changé aujourd'hui encore. Il y a sur cette terre des régions où les chrétiens, mes amis, sont tués, massacrés. Vous avez suivi cette scène terrible et intolérable quelque part au Pakistan, où des gens sont persécutés, condamnés à mort. D'autres, eh bien, perdent leur travail simplement parce que ils ont accepté un jour ils ont choisi de se tourner vers le Seigneur. Saul ne peut tolérer ces gens-là. L'homme qui se livre à cet acharnement contre les chrétiens, l'homme qui a cette haine contre les disciples de Jésus, est pourtant un homme qui croit en Dieu. Il n'est pas polythéiste, il ne croit pas dans plusieurs dieux, pas du tout. Il croit dans le Dieu de ses ancêtres, à savoir le Dieu d'Abraham, voyez-vous. L'homme est très religieux, comme il dira lui-même, qu'il était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de sa génération, que beaucoup de sa nation. Il avait été formé, en effet, au pied d'un certain Gamaliel, dont vous pouvez lire brièvement son histoire, son intervention lors de la comparution des apôtres dans Actes chapitre 5. C'était un docteur de la loi, très célèbre, très respecté, voyez-vous. Et il descendait d'une lignée connue parmi le peuple de Dieu. Il était le petit-fils de Hillel, encore un célèbre rabbin. Donc Gamaliel était une référence en matière de religion. C'était un docteur de la loi, un homme qui jouissait d'une certaine respectabilité auprès de tous les juifs, voyez-vous. Et celui qui, alors que les disciples comparaissaient, il va avoir cette sagesse de dire aux autres membres du Sanhédrin, il dit, écoutez, vous êtes en train de vous agiter pour rien. Voyez-vous, ne condamnez pas ces gens. Il y avait les apôtres qui étaient là. Car si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Ça sera comme de la vapeur qui paraît pour un temps, ou de la fumée qui paraît pour un temps, et puis ensuite il disparaît. Quand vous voyez une fumée qui s'élève, ça ne sert à rien de vous mettre à vouloir la faire disparaître. Elle finit toujours par disparaître, oui ou non. dire, si ça vient de l'homme, des hommes, ça disparaîtra. Cette œuvre se détruira d'elle-même. Mais si cette œuvre vient de Dieu, vous n'arriverez jamais à la détruire. C'est le conseil que Gamaliel avait donné au Sanhédrin. Et le Sanhédrin, eh bien, avait jugé cette intervention très sage et avait fini par libérer les apôtres, mais après les avoir fait flageller, hein, chicoter, fimbo. C'est donc au pied de ce brillantissime docteur de la loi que Paul, Saul de Tarse, avait été formé. Plus avancé dans le judaïsme que ceux de sa génération, que ceux de sa nation, voyez-vous. Bon pharisien, respectant la loi, respectant le Shabbat, il ne pouvait pas manger le porc, c'est interdit. Il fallait faire des prières, il fallait jeûner régulièrement. Voyez-vous, les pharisiens étaient soumis à une observation très stricte de la loi de Moïse. Ils allaient même au-delà. Deux fois par semaine, ils jeûnaient. Vous vous rendez compte? Bon pharisien, très bon connaisseur des Écritures saintes. Nous le voyons dans les Épîtres plus tard, quand il va écrire. Très bon connaisseur des Écritures. Mais malgré tout cela, l'homme est persuadé que le mouvement de Jésus est un véritable danger pour sa religion, est une tare pour le peuple d'Israël, voyez-vous. Il déteste cette foi, il fait tout pour éradiquer, qu'on n'entende plus parler de Jésus. Comment ces gens, ces tarés, peuvent raconter des sornettes, des inepties, selon lesquelles cet homme de Galilée, cet homme de Nazareth est le Messie attendu, alors qu'il n'a même pas été capable de se débarrasser de ses ennemis, il a fini sur une croix. Comment pouvez-vous soutenir de telles inepties? Pour lui, non, c'était de trop. Il fallait en terminer. Et la seule manière d'arrêter ce mouvement, cette dynamique qui venait de voir le jour à Jérusalem, au jour de la Pentecôte, et qui se répandait comme une traînée de poudre, la seule manière, c'était d'emprisonner tous ceux qui se tournaient vers Jésus, d'en tuer d'autres. C'est ainsi que l'homme, nous le retrouvons sur le chemin de Damas. Il est en route, animé de la même fureur, de la même haine, complètement obnubilé par son fanatisme et son intégrisme. Le voilà en chemin, content d'exécuter, mes amis, l'ordre du Sanhédrin, content d'aller affronter ces tarés des disciples, de les lier et de les amener à Jérusalem pour le jeter en prison. Et là, chemin faisant, alors qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, subitement, quelque chose se passe. Quelque chose se passe auquel il n'avait jamais pensé. La Bible nous dit une lumière venant du ciel, tout d'un coup tombe sur lui, resplendit autour de lui. Et plus tard, il dira lui-même à propos de cette lumière qu'elle était plus brillante que le soleil. Et la force de cette lumière, plus puissante que tous les grands lasers du monde, le projette par terre. Il est là au sol. Il est cloué. Il est ébloui. Plus qu'ébloui par cette lumière, il est rendu aveugle, car impossible de soutenir la puissance, la force de cette lumière. Oh, notre Jésus, il est encore le même aujourd'hui. C'est de lui dont nous avons besoin, la lumière dont les nations ont besoin, la lumière dont tout homme a besoin, ne se trouve pas dans une religion, monothéiste ou polythéiste, ne se trouve pas dans l'observation d'une croyance, mais la lumière est une personne. Le soleil levant qui nous a visités d'en haut, Jésus de Nazareth, est là sur le chemin de Damas. Le Christ ressuscité se manifeste à Paul, à Saul de Tarse. Il le projette par terre. Sa lumière est insoutenable. Il est complètement rendu aveugle. Il appelle Saoul, dans sa langue araméenne. Saoul, Saoul, l'homme est là, il est cloué au sol. Mais le Seigneur a eu la grâce de lui laisser un peu l'ouïe. Il entend la voix. Il réagit. Mais qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et cette voix puissante, mais remplie d'amour, remplie de compassion, puissante, mais douce. Il lui répond, moi, je suis Jésus que tu persécutes. Oh, alléluia. Je suis Jésus que tu persécutes. Pouvait-il s'imaginer, mes amis, qu'en persécutant les disciples du Christ, c'est Jésus lui-même qui le persécutait? Mes amis, l'Église est le corps du Christ dont il est la tête. S'attaquer à l'Église du Christ, c'est s'attaquer à Jésus lui-même. Mes amis, faites très attention. Faites très attention de jouer avec l'Église du Christ. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il a une affection particulière pour son Église. C'est son Église. Il en est le propriétaire. Il en est l'architecte. Celui qui l'a bâti. Quiconque touche à l'Église, croyez-moi, touche à Jésus. Et c'est une chose horrible, une chose terrible, mes amis, que d'avoir affaire à Christ. Faisons attention. Ne jouons pas avec le feu. Quelqu'un peut-il marcher sur des charbons ardents sans qu'il finisse par se brûler? Oui, hein. Aujourd'hui, l'Église est instrumentalisée. Ça devient pour certains un outil pour leur propagande politique. L'Église aujourd'hui est instrumentalisée. Ça devient pour certains, eh bien, une sorte de business. On ouvre des églises ça et là pour se faire de l'argent. Voyez-vous, il y en a qui utilisent l'Église pour leur célébrité, leur notoriété. Les âmes pour lesquelles Jésus est mort sont devenus, mes amis, des moyens sur lesquels ces gens montent pour être admirés, pour être honorés. Attention, celui qui a donné sa vie pour ses âmes nous attend dans l'éternité. Il nous attend. Alors agissons avec amour. Agissons avec crainte. L'Église appartient au Seigneur. Aujourd'hui nous sommes là. Demain nous passerons. D'autres viendront, eux aussi passeront. Mais le constructeur de l'Église, l'architecte de l'Église, le propriétaire de l'Église, lui demeure éternellement. Puisque c'est son Église, alors comportons-nous comme, mes amis, des simples serviteurs qui mettent à la disposition de son Église tous les talents, tous les dons qu'il nous a accordés. Gloire à Dieu. La présence glorieuse du Christ, tel un puissant laser, projette cet homme imbu de lui-même, cet homme orgueilleux, avec un égo hypertrophié. Cette lumière du Christ, dans toute sa splendeur et dans sa puissance, le fige sur place et l'aveugle. Il est donc cloué au sol. Désormais, il est incapable de se débrouiller. Ce sont les autres qui vont le prendre pour l'amener jusqu'à Damas. Vous voyez comment le Seigneur sait nous confondre. Mes amis, peu importe qui nous sommes, nous restons néanmoins des simples vases d'argile. Nous restons des gens vulnérables, des gens évanescents. Pour Paul, mes amis, il est foudroyé. Foudroyé par cette lumière extraordinaire. Pour cet homme Saul de Tarse, commence une nouvelle vie, oh alléluia. Au cœur, au centre de cette merveilleuse expérience, se trouve une personne. Jésus-Christ de Nazareth, le soleil levant. Pouvait-il s'imaginer qu'en allant là à Damas, il rencontrerait le Christ ressuscité? Sa vie, à partir de ce moment, va connaître, mes amis, un virage. à 180 degrés, va connaître une sorte, une véritable volte-face. 380 degrés. Il allait comme ça, le Seigneur l'arrête, hop, il se met à aller dans l'autre sens. Tout change. Le Seigneur vient enfin de faire irruption dans la vie de l'apôtre, plutôt de Saul de Tarse, il n'est pas encore appelé. Il vient de faire irruption dans sa vie de manière spectaculaire, de manière extraordinaire. Voyez-vous, mes amis, la vraie conversion passe par une rencontre personnelle avec Jésus. Voilà le message que nous devons annoncer. Le soleil levant est là. Il brille depuis plus de 2000 ans. Mais vous avez encore des hommes et des femmes ici-bas qui sont esclaves des ténèbres de la religion, qui sont enchaînés dans l'ombre de la mort spirituelle. Et pourtant, l'étoile brillante du matin n'arrête pas d'envoyer ses rayons de salut, ses rayons d'amour, ses rayons de sainteté, de justice. La vraie rencontre, plutôt la vraie conversion, passe par une rencontre personnelle, par une rencontre vivante, par une rencontre existentielle avec Christ et conduit à une nouvelle vie. Là où Jésus est passé, là on voit des traces vivantes. Oh, alléluia. Car la Bible dit, et c'est encore Paul qui le dit, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ceci n'a pas été quelque chose qu'il a appris dans une école biblique ou dans une école de théologie. C'est quelque chose qu'il a expérimenté. Il était pharisien fanatique. Il était un juif obnubilé par la tradition de ses pères. Et puis un jour, le soleil levant se révèle à lui et une nouvelle vie commence pour lui. Gloire au Seigneur. Oui, pour Paul, cette rencontre s'est faite de manière extraordinaire, de manière spectaculaire. Voyez-vous, mais ceci ne veut pas dire que toute conversion devrait se passer comme celle de l'apôtre Paul. Vous voyez? Non, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de schéma préétabli. Et voilà, la rencontre avec Jésus, c'est toujours et uniquement comme ça, pas du tout. Chaque conversion est particulière, alléluia. Il y a des gens qui connaissent une conversion spectaculaire, mais il y en a d'autres qui passent par une conversion douce et tranquille. Voyez-vous, donc il n'y a pas beaucoup de choses extraordinaires. Cependant, le Seigneur est passé par là, ils l'ont reçu dans leur vie, et puis, ils se retrouvent dans leur marche avec le Seigneur. Pour d'autres, c'est spectaculaire. Paul n'a pas été le seul à avoir expérimenté cela. Je vous ai parlé une fois du Sadhu Sundar Singh, cet homme sikh, au début des années 20. Alors qu'il était un jeune homme, il cherchait aussi Dieu, qu'il n'avait pas trouvé dans sa religion, la religion sikh. Et puis un jour, le Seigneur lui se révèle à lui. Il appelle Sundar Singh. Je suis le Dieu que tu cherches, Jésus de Nazareth. À partir de ce moment-là, ce jeune homme va se lever, il va aller trouver son père, il appartient à une lignée. Vous voyez, les Sikhs, ce sont ceux avec leurs turbans là. Vous voyez, les Hindous, avec leurs turbans, et ils ont leur poignard aussi, une sorte de sikhère. Et c'était donc impossible de changer de religion, surtout quand on appartenait à une famille noble. Mais lui, il l'a fait. Et pour ouvrir une parenthèse, c'est donc lors de son passage en Suisse au début des années 20 que Gaston Vernot s'était converti. Et plus tard, Gaston Vernot, ayant épousé Clara, aura comme fils Jacques Vernot et sa sœur. Donc son père s'était converti par le ministère de cet homme, Sundar Singh, qui lui aussi est passé par une conversion spectaculaire. Mais ça ne se passe pas toujours de manière spectaculaire. Il y en a, ils se sont tellement fourvoyés dans une vie abominable, vous voyez. Donc, ils étaient comme un baobab du mal, un baobab du péché. Quand tout le monde passait, ah, c'est lui, nous le connaissons. C'est un homme violent. C'est un homme, c'est un tueur. C'est un escroc social. C'est un adultère, tout ce que vous voulez, dont tout le monde le connaît dans la ville. Mais quand un baobab pareil tombe, ça fait beaucoup de bruit, oui ou non? Et puis le Seigneur passe par là. Ouh, tout le monde, il prie maintenant. Il a maintenant la Bible. Oh là là, eh ben oui, mais il y en a d'autres. Simplement, nous faisons la peine, ils s'élèvent, ils sont touchés par le Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, je t'ai coulouna, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Seigneur, pardonne-moi, je t'ai voleur, je t'ai ceci, pardonne-moi, et viens dans ma vie. Et puis le Seigneur entend la prière et il entre dans la vie. Tout doucement, de manière tranquille. Eux, ils n'étaient pas des baobabs du mal, voyez-vous? C'était, quoi, des petits avocatiers du mal. Un petit avocatier, ou alors un petit manguier. Encore qu'elle mangue de toute petite. Voyez-vous, qu'on allait chercher à Loambo. Donc, de toute petite, enfin, ceux qui ont vécu à Ligansi savent de quoi je parle. De toute petite, là, et puis, quand on coupe un petit arbre comme ça, sauf ceux qui sont là. D'autres encore, c'est un arbuste de rien du tout. Les gens passant même, eh bien, marchent dessus. Et puis, ce petit arbuste se tourne vers le Seigneur. Donc, il n'y a pas un schéma préétabli en disant, tiens, moi, j'attends que la lumière, que le Seigneur se révèle à moi comme il s'est révélé à Paul. Il est libre de faire ce qu'il veut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce qui est important, c'est que nous le rencontrions. Qu'il y ait, que ce soit de manière spectaculaire ou pas, ce qui est important, ce qui est nécessaire, c'est que nous puissions le rencontrer. En conclusion, Saul de Tarse, autrefois plongé dans les ténèbres de sa religion, autrefois plongé dans les ténèbres du fanatisme, de l'obscurantisme religieux, autrefois imbu de lui-même, pharisien, légaliste, intégriste. Et puis là, sur le chemin de Damas, quelque chose se passe. Il est foudroyé. Mes amis, par la lumière du Christ, alléluia. Là, sur le chemin de Damas, il rencontre le soleil levant. Et à partir de ce moment-là, la vie de cet homme n'a plus été la même. Mes amis, le monde est plongé dans les ténèbres depuis que le péché est devenu une réalité, une sinistre et horrible réalité. Les ténèbres sont partout. Nos sociétés croupissent sous le poids, mes amis, des ténèbres morales et spirituelles. C'est parce qu'il y a de plus en plus de ténèbres spirituelles qui s'accumulent sur nos cités, sur nos villes, que beaucoup d'entre elles sont devenues de véritables pétaudières, et comme j'aime le dire, de véritables pandémoniums, de lieux où les démons se livrent à des besognes macabres, destructrices. Ténèbres de l'athéisme, ténèbres de la religion fanatique, comme pour Paul, ténèbres morales, ténèbres spirituelles. Et par rapport à toute forme de ténèbres, il n'y a qu'une solution. C'est l'unique solution. Et cette solution est une personne. C'est cette personne dont la venue sur cette terre, avec une mission spéciale, a été annoncée comme étant l'avenue de l'astre brillant, du soleil de justice, dont les rayons sauvent, dont les rayons guérissent, dont les rayons délivrent, dont les rayons libèrent. Et ce soleil levant est parmi nous. Alors, je vais vous demander d'incliner vos têtes. Je ne peux pas terminer ce message sans donner l'occasion à celui ou à seul qui, ce matin, ici à la borne, n'a pas encore été irradié par les rayons qui émanent de la personne du Christ, le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Mais je demande également à tous ceux qui nous suivent via différentes chaînes de télévision, Biwan, Sangomalam ou autres, d'incliner aussi la tête, car je veux faire l'appel. Même toi qui me suis à la radio, le soleil levant voudrait t'éclairer, te libérer de ces ténèbres de la malédiction. T'éclairer et te libérer des ténèbres de l'athéisme, de l'occultisme, de la magie, de la malédiction. Alors, je commence par le salut. L'apôtre Paul a été sauvé à partir de ce moment-là, lorsqu'il rencontre le Seigneur, qui se manifeste à lui comme ce soleil levant, dont la lumière débarrasse de toute forme de mort spirituelle, de religiosité mortelle. Si tu n'as jamais rencontré Jésus, tu viens peut-être à la borne parce que l'ambiance te plaît, parce que tu trouves les gens extrêmement sympathiques. Tu viens à la borne parce que tu as vu que ton chef y venait. Alors pour gagner sa sympathie, tu te mets aussi à suivre. C'est une bonne chose de venir, peu importe la motivation. Tu es là, tu viens, mais tu n'as jamais pris la décision de rencontrer personnellement le Seigneur. Eh bien, le soleil levant, Jésus-Christ de Nazareth est là, parmi nous, devant nous. Il est là devant ton téléviseur, avec ses mains percées, brillant comme le soleil. Il est là, derrière ton poste de radio. Alors, si tu veux le recevoir aujourd'hui et faire l'expérience de la nouvelle naissance, être délivré du pouvoir de ténèbres, délivré de l'incrédulité, de l'athéisme, je te prie de lever ta main si tu es là. Et nous allons te conduire aujourd'hui au pied du Seigneur afin que tu puisses le recevoir. Merci pour la main qui s'élève. Merci pour les mains qui s'élèvent, merci. Merci, il ne faut pas avoir honte. Paul a été terrassé par le Christ. Et le même Christ est présent au milieu de nous. Merci de garder bien haut, bien lever votre main, merci. Et vous qui me suivez à la télé, vous pouvez lever aussi votre main si vous n'avez jamais accepté le Seigneur. Jésus est là, ne te contente pas de chanter pour lui seulement. Ne te contente pas seulement d'avoir son nom dans la bouche. Mais rencontre-le personnellement. Il est là, lui le soleil levant. Alors je vais demander à tous ceux qui ont levé leurs mains de se lever, mes amis, et je vais prier, je vais vous conduire dans la prière d'acceptation. Vous allez recevoir Jésus dans vos vies. Oh, alléluia. Oui, le soleil levant. Mon frère, tu peux te lever. N'aie pas honte, merci. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Nous sommes là pour vous aider. Merci. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse, merci. Des âmes sont là debout devant le Seigneur, merci. Merci à tous ceux qui se sont levés, que ce soit là au parking, que ce soit à la cour de l'école maternelle, que ce soit dans les différents chapiteaux ou dans les hangars. Le Seigneur vous voit et il veut aujourd'hui briller et vous débarrasser de la malédiction. Briller et vous libérer du pouvoir de perdition qui vous maintient dans la mort spirituelle. Vous allez prier après moi, et je demanderai à tous ceux qui sont restés tête baissée de se joindre à ma prière, d'implorer la grâce de Dieu pour qu'elle vienne, pour qu'elle tombe sur la vie de toutes ces personnes. Priez après moi, mes amis. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci d'être venu ici-bas pour me chercher afin de me libérer du pouvoir des ténèbres. Seigneur, tu es là devant moi. J'ai entendu ton appel. J'ai entendu, Seigneur, ta voix. Comme Saul de Tarse avait entendu ta voix sur le chemin de Damas. Et aujourd'hui, Seigneur, je me lève pour t'inviter à venir dans ma vie. Mais avant cela, je te demande pardon pour ma vie, pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, car tu as donné ta vie à la croix pour moi. Merci pour le pardon que tu m'accordes. Merci Seigneur. Viens dans ma vie. Entre dans mon cœur. Sois désormais le Seigneur de ma vie. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais je veux vivre pour toi et avec toi. Je te reçois comme mon Sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur. Merci de me laver dans le sang que tu as versé à la croix. Que ta lumière brille maintenant dans mon cœur. Que ta lumière détruise tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, je te reçois à partir d'aujourd'hui et te demande, Seigneur, de rester dans ma vie et de m'aider à grandir en toi. Merci, Seigneur. Nous allons tous nous mettre debout. Excusez-moi. Nous allons prier pour différents besoins. Car la lumière du Christ n'est pas là seulement pour notre salut, mais pour nous débarrasser de toute obscurité, de toute ténèbre de malédiction, toute ténèbre, mes amis, de l'insuccès. Et nous allons invoquer cette lumière, celui qui a brillé sur le chemin de Damas, qui s'est révélé à Paul, est le même qui est présent au milieu de nous. Il peut rayonner de sa lumière aujourd'hui sur nous. Alors mon frère, lève tes mains et nous allons prier pour que sa lumière puisse nous visiter puissamment, nous débarrasser de tout ce qui n'est pas à ta gloire. Que cette lumière ouvre les portes qui sont restées fermées. Les ténèbres bloquent nos vies. Les ténèbres nous empêchent d'avancer. Mais ce matin, la lumière de Jésus est là. Alors invoque le nom de Jésus. Crie à celui qui est le soleil levant. Dis-lui, Seigneur, que ta lumière brille dans ma vie. Que ta lumière brille dans mon foyer, dans mon travail, dans mes affaires, dans ma famille. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Invoquons le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es là, toi, le soleil levant. Tu éclaires nos vies maintenant. Tu détruis l'incrédulité dans le cœur. Tu brilles dans notre travail. Tu brilles dans nos études. Tu brilles dans notre carrière. Toi, le soleil levant, lève-toi dans nos vies et chasse l'obscurité des ténèbres. Lève-toi dans nos vies. Débarrasse-nous de l'obscurité spirituelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Oui, Jésus, nous te louons, nous t'adorons. Oh, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je vais proclamer la victoire de celui qui a donné sa vie à Golgotha. De celui qui se révèle à l'humanité comme étant le soleil levant, dont les rayons libèrent de toute forme d'esclavage, dont les rayons apportent le succès, apportent la réussite, dont les rayons sont porteurs de prospérité à tous égards, dont les rayons nous protègent de toute action des ténèbres, dont les rayons nous protègent contre l'obscurité des ténèbres, l'obscurité démoniaque. Oh, alléluia. C'est devant toi, et avec une foi ferme dans ta parole, que je me tiens, Seigneur, pour te remercier d'être venu ici sur terre, comme ce soleil promis, depuis les temps immémoriaux, cet astre brillant, qui devait sortir de Jacob, ce soleil de justice, dont les rayons sont porteurs de guérison, de salut, de délivrance, de libération, de succès, de réussite, de restauration, que maintenant, toi le soleil levant, tu illumines chacun de nous, Tu nous éclaires au nom de Jésus-Christ. Tu éclaires nos foyers. Tu éclaires nos familles. Tu éclaires notre travail. Que nous soyons de véritables lumières. C'est toi qui as dit, vous êtes la lumière du monde. Brille en nous, Jésus. Brille en nous, Seigneur. Oh, alléluia. Gloire à toi. Merci de continuer à nous éclairer. Merci pour tout. Pose ta main et bénis le service des offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le nom du Seigneur. Veuillez vous rasseoir.